France Musique.
Le pays des orgues. Bonjour à tous, cinquième étape de notre randonnée au Pays des Orgues avec deux magnifiques instruments. Le premier, un orgue baroque d'Allemagne du Nord, signé Marc Garnier, est situé dans le temple Saint-Jean de Belfort. Et le second, érigé dans l'église Saint-Martin de Grandvillars, à 18 km au sud-est de Belfort, est un orgue baroque espagnol de Joaquín Lois Cabello et Christine Fetter, inauguré en 2018. Et ces deux instruments ont un papa commun, figurez-vous, c'est l'organiste Jean-Charles Ablitzer, faiseur d'orgue et d'organiste dans le territoire de Belfort, exactement comme on le disait de Swelinck à Amsterdam au XVIe siècle, qui va nous les jouer tous les deux. Deuxième partie d'émission maintenant, nous quittons Belfort pour nous rendre à Grandvillars, à 18 km au sud-est, ville natale de Jean-Charles Ablitzer, non loin de la frontière suisse. En 2018, Jean-Charles Ablitzer et l'association Art et Connaissance de l'orgue espagnol à Grandvillars ont été à l'origine de la construction d'un orgue espagnol de transition entre Renaissance et baroque, la seule esthétique à ne pas être encore représentée dans le territoire de Belfort, qui propose à lui seul un tour d'Europe des grandes écoles d'orgue.
Le pays des orgues, Benjamin François, c'est l'été sur France Musique.
Alors, Charles Blitzer, un orgue espagnol à Grandvillars, quels arguments avez-vous fait valoir en 2012 pour lancer ce projet ?
Eh bien, vous savez qu'ici, nous avons travaillé beaucoup à la complémentarité stylistique lors de construction d'instruments, puisque, bon, vous l'avez vu, on était à Saint-Jean, l'orgue nord-allemand, bon, on a des orgues de français. On a des orgues également de d'Allemagne centrale, d'Allemagne du Sud, tout près de la frontière, là, dans la Suisse toute proche. Eh bien, il manquait quand même un orgue espagnol. Il y avait un orgue italien aussi que nous n'avons pas visité, mais qui se trouve à Belfort, à l'église Saint-Odile. Et je dois quand même vous dire que c'était un petit peu une folie d'imaginer mettre un orgue espagnol dans cette église de Grandvillars. Un nom que personne ne connaît, Grandvillars, c'est où ça voilà. Mais j'y suis né. Et puis il y a un maire quand même qui a flairé qu'il pouvait y avoir sur le plan culturel une idée intéressante pour un équipement dans son village. Et ça ne s'est pas passé tout seul quand même, il a fallu argumenter, il a fallu aussi s'engager un peu financièrement. Mais bon, voilà, ce maire, M. Rayot, a décidé de construire cet orgue, de financer. Et il a tenu parole, on est allé jusqu'au bout. Alors c'était absolument merveilleux. Bon, ça nous a donné quand même beaucoup de soucis. On a travaillé presque 5 ans. Mais voilà, là je vais dire que maintenant, avec l'orgue flamand de Bertrand Catiot à Bernevesa, c'est à 10 kilomètres d'ici, du Christianville, bon, on a vraiment tous les styles européens sous la main. Voilà, pour, vous voyez, on fait peu de kilomètres. On se retrouve en Allemagne du Nord. Après, on arrive en Espagne. Après, on peut refaire un petit tour en 20 minutes de voiture. On est nouveau en Flandre. Enfin, voilà.
Jean-Charles Ablitzer, le choix des facteurs, ça fait longtemps que vous êtes passionné par l'orgue ibérique. Vous avez enregistré un disque Pablo Bruna. Comment avez-vous rencontré Joaquín Lois Cabello et Christine Fetter?
Alors, j'ai rencontré Christine Fetter avant de rencontrer Joaquín. Parce que quand je faisais des voyages en Espagne, je visitais des instruments, je les jouais. Et j'ai toujours été séduit par le caractère de l'harmonie que Christine apportait à son travail d'harmonisation. Ça m'a toujours beaucoup séduit. Donc, quand le projet de Grandvillars a commencé à prendre corps, j'en ai parlé à Christine et je lui ai dit, de toute façon, si on arrive à faire un orgue espagnol, je veux que ce soit toi qui l'harmonise. Voilà. Mais Christine, maintenant, travaille seule dans son atelier. C'était quand même un peu trop important comme travail pour qu'elle puisse tout réaliser. Et c'est elle qui m'a suggéré une coproduction, un partenariat avec Joaquín Lois.
Jean-Charles Blitzer, je pense toujours à cette histoire que m'avait racontée Francis Chaplet, qui est venu jouer ici aussi. Quand on lui demandait la raison pour laquelle cet orgue espagnol paraît aussi râpeux comme ça, comme des vins d'une vigne un peu, voilà, de montagne ou comme ça, il répondait, il suffit de regarder, d'entendre les vieux dans les villages qui sont au bar le soir, quand il a fait très chaud dans la journée, et qui parlent dans un espagnol extrêmement de base, guttural, et qui font comme ça... C'est aussi votre sentiment ?
Oui, mais absolument. Puis les Espagnols adorent le bruit, hein. Ils parlent fort. Alors, ils parlent comme ça, très rocailleux. Ils parlent très, très fort. Et pour s'en convaincre, il suffit d'aller à Covarrubias et puis vous allez chez Galine au bar. Voilà, où il y a aussi tous les détritus par terre et où on boit plus que de raison. Et puis, ben, vous entendrez tous ces gens-là qui se retrouvent là le soir, parce qu'en général, ils commencent à sortir vers 20h, voilà. Et puis on commence à le repas vers 21h, 21h30. Et bien là, je vous assure que là, vous entendez aussi les chamades. Absolument. Alors, ils disent ça, et moi, j'ai autre chose aussi à ajouter, c'est que quand Christine Vetter a proposé donc ce jeu de Dulcinea et l'a harmonisé, elle disait, mais moi, quand j'harmonise ce jeu, il faut que le résultat me fasse penser à un troupeau de moutons. Je sais plus si c'est avant ou après la tonte. Enfin, voilà.
C'est quasiment la même chose.
C'est peut-être la même chose.
On voit très bien. Francisco de Tejada, Espagnoleta, par Jean-Charles Blitzer, à l'orgue espagnol de Grand Villard. Du baroque allemand du Nord aux mille couleurs à la péninsule ibérique, vous nous faites traverser l'Europe en diagonale et nous nous retrouvons en Espagne à la fin du XVIe siècle à peu près et du XVIIe siècle avec des instruments qui ont gardé des bases héritées de la facture flamande. Alors nous n'allons pas jouer ici à Don Carlos de Schiller, mais j'imagine qu'il y a des raisons historiques en lien avec les possessions espagnoles aux Pays-Bas.
Mais oui, mais l'origine de la construction des orgues en Espagne, c'est d'abord les Flamands, donc il y a des écoles vraiment spécifiquement espagnoles. Et très longtemps, parce que Charles Quint lui-même, quand il s'agit de construire un orgue pour l'Escorial, pour le palais, il fait appel à un facteur d'orgue flamand, et non pas à un facteur d'orgue espagnol.
Alors, quand on parle d'orgue ibérique, s'agit-il d'une école très homogène ou bien y a-t-il eu des variantes ?
Mais il y a plusieurs écoles qui se partagent géographiquement, on va dire, entre le royaume d'Aragon, la province de Valence, le sud de l'Espagne, et puis l'école castillane. Voilà, on peut dire qu'il y a des différences mineures dans les instruments, mais quand même, ce sont des écoles qui sont affirmées.
Et un des grands principes qu'on a ici aussi à Grand-Villard, de ces instruments à un seul clavier, c'est que pour certains jeux, ils vont être différenciés entre basse et dessus. C'est aussi un principe qui a été retenu ici aussi à Grand-Villard.
Ah bien sûr, ça c'est indissociable de l'orgue espagnol. Et d'ailleurs, la musique espagnole est conçue pour ce partage du clavier en deux. Et il y a des pièces qu'on ne peut pas jouer sinon. Mais la coupure des claviers en Espagne est relativement tardive. Ça arrive à la fin du XVIe siècle. Donc pour la musique qui est antérieure, on peut très bien avoir un orgue qui est à jeu non coupé. Mais dès qu'on arrive dans les grands chefs-d'œuvre de Correa et Bruna, voilà ces compositeurs que vous entendrez là dans ce concert, eh bien, on est vraiment tributaire de la coupure des claviers. Sinon, je dirais, c'est impossible pratiquement de jouer la musique.
Pour les auditeurs qui ne sont pas organistes, que permet cette coupure des claviers entre basse et dessus ?
Eh bien, elle permet d'avoir l'illusion de deux claviers, en fait, c'est-à-dire avoir des timbres à la main gauche qui soutiennent une mélodie, par exemple, jouée à la main droite. Ça permet également d'avoir des dialogues avec des timbres différenciés entre la base du clavier et le dessus. Voilà, et c'est une chose très très intéressante et qui est vraiment spécifique de l'Espagne. Et je crois que c'est pour ça qu'en Espagne, on n'a jamais eu vraiment le besoin de construire des orgues avec deux ou trois claviers. On a vu ça assez tardivement dans les cathédrales, ces grands instruments. Mais l'orgue espagnol n'a qu'un clavier, en principe, à jeu coupé. Et pour l'auditeur qui n'est pas très au courant, justement, de cette technologie, on va dire, eh bien, il a vraiment l'impression qu'on a affaire à un instrument à plusieurs claviers.
Un autre musicien que vous allez nous jouer aussi, Jean-Charles Blitzer, Sebastián Aguilera de Heredia. Présentons-le en deux mots. Il était, je crois, organiste à Saragosse.
Il était organiste à Saragosse. Il a été auparavant organiste à Huesca. Et c'est justement à Huesca qu'il a fait installer le premier jeu en chamade de Dulcinea. C'est à sa demande. Et quand il est arrivé à Saragosse, à la cathédrale, eh bien, il a fait faire des modifications à l'instrument, et notamment, il a fait aussi installer le jeu de Dulcinea en basse et dessus. Voilà. Et Heredia, je pense, dans cette première moitié du XVIIe siècle, un des compositeurs vraiment les plus importants.
Ce titre Ensalada n'est pas une salade comme au restaurant, mais un mélange, c'est ça que ça veut dire. Et peut-être aussi que ces pièces peuvent aussi se chanter, pourquoi pas ?
Oui, alors je vois ce que vous voulez me suggérer. Vous pensez au code libet, peut-être ?
Oui, voilà.
Je sais que chacun lance son doigt. C'est un petit peu ça. La salade, en fait, parce qu'on mêle beaucoup de thèmes, différents thèmes, et surtout beaucoup de rythmes. Alors c'est une pièce qui est écrite, mais qui laisse presque penser à l'improvisation. Parce qu'elle est assez fantasque, on passe d'un rythme à l'autre. Une pièce vraiment bigrement intéressante, et d'ailleurs qu'on peut jouer avec un ensemble instrumental, et ça permet aussi une instrumentation absolument délirante. Bon, à l'orgue, on peut aussi imaginer une enregistration encore plus exubérante, mais ça donne beaucoup de travail avec justement les claviers à jeu coupé. J'ai choisi une version un petit peu plus light, on va dire, pour l'enregistrement live de ce concert. Mais vraiment, c'est une pièce qui se prête à beaucoup de recherches sur le plan de l'interprétation et puis sur le plan de l'enregistration.
Sebastián Aguilera de Heredia, obra de Ocho Tono Alto, Ensalada, par Jean-Charles Blitzer, à l'orgue espagnol de Grand Villard. Et puis, on parle aussi brièvement de Pablo Bruna. Vous lui avez consacré un CD, Jean-Charles Blitzer. On est au XVIIe siècle, là, pleinement, dans la province espagnole de Saragosse, avec cet organiste qui a passé toute sa carrière comme premier organiste de la chapelle royale. Pourquoi vous est-il toujours attiré?
Il était organiste à l'église de Daroca, et il se trouve que c'est une belle figure, parce que Pablo Bruna, je sais pas, parle directement au cœur. C'est une musique... On peut l'expliquer, en fait, parce que Daroca était le centre d'un pèlerinage très important. Je ne peux pas vous raconter toute l'histoire, mais il y a eu un miracle du temps de la Reconquista. Il y avait une messe qui était célébrée juste avant de partir au combat. Et puis, la messe a été interrompue parce que les musulmans ont chargé à ce moment-là. Donc, tous les soldats sont sortis. Et puis, le prêtre a mis les hosties de côté dans un linge, caché sous une pierre. Et alors, quand on avait repoussé l'assaut musulman, on a voulu terminer la messe, ils ont voulu communier avant de repartir au combat, et on a vu que les hosties étaient ensanglantées et avaient fait des marques rouges de sang. Donc ce linge qu'on appelle le corporales a été exposé à Daroca. On ne sait pas trop le mettre, alors on a mis cette relique sur un âne, et puis... On a donné un coup de pied à l'âne, puis on a dit, on va voir de quel côté il se dirige, parce qu'il y avait trois villes qui revendiquaient la possession des reliques. Et il s'est dirigé du côté d'Aroca. Donc, je reviens à mon premier propos, c'était un centre de pèlerinage important. Les rois d'Espagne faisaient halte pour ce pèlerinage et voulaient aussi entendre Pablo Bruna. Donc, il n'a pas été, comme Correa ou d'autres, un organiste qui écrivait de la musique pour les chanoines qui étaient dans le chœur, les savants chanoines, mais il a écrit pour tout le peuple là qui venait se recueillir devant ces reliques de Daroca. Et c'est pour ça que je pense que sa musique est aussi vivante et parle directement. Elle n'a peut-être pas la profondeur de celle de Correa ni Heredia, mais voilà, je trouve qu'elle elle parle immédiatement, elle est très colorée. Voilà mon explication en tout cas.
Pablo Bruna, Pange Lengua. Et c'est ainsi que prend fin notre cinquième étape dans le territoire de Belfort. Une émission en compagnie de Jean-Charles Blitzer, que je remercie, ainsi que son épouse Martine, autour de deux écoles européennes d'orgue très complémentaires. Je remercie également l'association Accorg et son dynamique président Jean-François Christ, la commune de Grandvillard et aussi la toujours aussi parfaite équipe du Pays des Orgues, à la prise de son Michel Gassic et Valentin Azan-Sielensky, Thaïssa Froidure, attachée de production, et Jean-Claude Mullet à la réalisation. La page du Pays des Orgues est à votre disposition sur francemusique.fr avec une carte interactive, des photos, liens et ressources documentaires également pour la réécoute et le podcast quand vous le voulez, où vous le voulez, sur francemusique.fr. La semaine prochaine, notre périple nous mènera de l'autre côté de la frontière, pas loin d'ici. D'ici là, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.